je suis arrivé, j'ai découvert effectivement cette tempête et cette tourmente autour des frais d'élus qui sont ridicules.
De vos frais, monsieur Castel.
De mes frais, des frais de président d'une métropole.
Le président de la métropole de Lille, interrogé par France 3 Régions après la publication d'une enquête sur le site Médiacité, un média d'investigation au niveau local, parce que Paris est parfois un peu loin du terrain, parce qu'il n'y a pas de petites affaires, parce que la presse se trouve considérablement affaiblie dans certaines régions françaises, parce que la bonne santé des contre-pouvoirs locaux dépend aussi la démocratie, parce que de la bonne santé des contre-pouvoirs locaux dépend aussi la démocratie. Et bien décidément j'ai du mal ce matin. Médiacité s'est implantée à Lille, à Lyon, à Toulouse, à Nantes, mais peine à susciter un nombre d'abonnements suffisant. Mars Actu a fini par s'imposer à Marseille. Le Poulpe commence timidement en Normandie. Le Doc jette l'éponge à Montpellier. Splane prend tout juste son envol en Bretagne. Coup de projecteur sur ce journalisme de combat au niveau régional, sur ses enjeux et sur ses difficultés.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Jacques Transo.
Sonia.
Soyez le bienvenu, vous êtes l'un des cofondateurs de Médiacité. Alors avant de vous donner la parole et de balayer les régions françaises et comment on y fabrique ce journalisme d'investigation auquel vous croyez ardemment, je vous propose un petit détour par une étude consacrée aux sourds et aux malentendants. Ils sont très nombreux parmi nous. La Fondation Jean Jaurès et le Médiapi. Alors Médiapi, c'est un média bilingue en langue des signes. L'ont mené conjointement cette enquête. Là aussi, vous allez voir, il va être question de démocratie. Bonjour David Medioni.
Bonjour Sonia De Villers.
Vous êtes à la fois journaliste et directeur de l'Observatoire des médias de la Fondation Jean Jaurès. On estime à 4 à 6 millions le nombre de personnes sourdes et malentendantes en France. C'est la première fois, pourtant, qu'on essaye d'évaluer leur relation aux médias. Est-ce qu'ils se sentent exclus de la sphère médiatique ?
Globalement, ils reconnaissent que les médias ont fait énormément d'efforts pour se rendre plus accessibles. En revanche, si la population sourde, malentendante et signante fait état du fait qu'elle a une très bonne facilité d'accès aux films, aux documentaires ou globalement au divertissement...
Ça c'est, je vous interromps, ça c'est évidemment l'arrivée des plateformes en France, la mise à disposition aussi sur des plateformes internet de tous les contenus de TF1, d'M6, d'Arte, de France Télé de manière gratuite. Là, j'imagine qu'on a du sous-titrage à gogo et qu'on a un catalogue pléthorique.
Oui, oui, tout à fait, c'est exactement ça. Il y a vraiment une accessibilité qui est forte. Alors, ce qui pêche, et c'est très embêtant pour une année, l'année qui s'annonce, l'année qu'on va vivre avec la présidentielle en ligne de mire, ce sont l'accès notamment aux débats politiques, aux émissions politiques, aux émissions d'information. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui pêche. Plus de 69% des répondants disaient qu'ils jugeaient insuffisante l'accessibilité aux débats politiques, par exemple.
Donc alors, ça, c'est vraiment... C'est d'autant plus intéressant que s'il y a bien un créneau médiatique, un genre médiatique qui a proliféré ces derniers mois et ces dernières années, c'est précisément les rendez-vous de débat politique, en tout cas de débat d'idées.
Exactement, c'est vraiment à ce type de programme sur lesquels ils considèrent que c'est des efforts qui ont été insuffisants, qui vont pas dans le bon sens. Alors évidemment, on peut se dire que c'est dû au brouhaha généralisé qui règne parfois sur ces plateaux, et c'est vraiment le but qu'on avait avec cette note et cette étude qu'on a fait avec la Fondation Jean Jaurès, c'est de tirer de la sonnette à l'heure, mais juste de mettre en lumière ce problème, parce que il y a une année présidentielle, il y a une année où il va y avoir des débats et où finalement cette population, 6 millions de personnes, vous le rappeliez tout à l'heure, doit avoir le plus possible accès à ces émissions de débat, à ces questionnements politiques. Ouais,
on avait l'impression, David Medioni, qu'avec le Covid, avec la présence des interprètes en langue des signes au moment de chaque conférence de presse ministérielle, au moment de toutes les interventions du président de la République, on voyait ces interprètes en langue de signes qui étaient même presque starisés, en tout cas vraiment très bien mis en valeur, parce que généralement c'était des femmes. On avait l'impression que ça avait beaucoup fait pour améliorer la visibilité de cette cause.
Oui, complètement. Ça a été quelque chose de très positif. Et d'ailleurs, il y a des choses qui ont été faites. Hein. Même le CSA, qui chaque année regarde un peu l'état des lieux de l'accessibilité des chaînes de télé, a acté qu'il y avait eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais en revanche, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas passé la vitesse supérieure.
Il y a aussi le sport qui échappe au sous-titrage.
Tout à fait, et c'est très dommage, c'est très dommageable, justement, c'est ce qui est, en fait, les débats politiques et les événements sportifs en direct, ainsi de suite, c'est des moments de rassemblement, des moments de partage aussi, finalement, et on peut finalement en parler, ou en tout cas, échanger sur ces épisodes et sur ces événements le lendemain. Et en fait, cette population sourde et malentendante, au-delà de son handicap, elle se sent aussi exclue parce qu'elle peut pas avoir accès à ça.
Il faudrait doubler ou sous-titrer les commentaires, en réalité.
Oui, pourquoi pas imaginer aussi un petit médaillon de langue des signes, comme il y a sur les interventions du président de la République, par exemple.
C'est
on pourrait très bien imaginer ça pour un match de foot ou pour un match de handball ou quel que soit l'événement sportif, finalement.
Merci beaucoup, David Medioni. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire des médias de la Fondation Jean Jaurès. Bonne journée.
Merci à vous, bonne journée.
Et mon invité du jour s'appelle Jacques Transeau, il est cofondateur de Mediacité, ce média fondé il y a quelques années et qui croit profondément, ardemment aux vertus de l'enquête et de l'investigation au niveau régional. Je répète les villes dans lesquelles vous vous êtes implanté, Jacques Transeau, à Lyon, à Lille d'abord, à Toulouse et à Nantes. Vous aimeriez grossir, sauf que en réalité le modèle économique du site reste extrêmement fragile. On va parler des enjeux et des difficultés d'implanter économiquement des médias au niveau régional. Quand on est abonné à Mediacité, est-ce que quand on est lillois, on ne lit que les articles qui concernent Lille ? Est-ce que quand on est lyonnais, il nous arrive de lire des articles qui concernent Nantes ? Est-ce que quand on est toulousain, on s'intéresse à l'actualité lilloise ?
Alors, quand on est abonné à Mediacité pour 60 euros par an, c'est pas cher, ou 7 euros par mois, on a accès à l'ensemble des villes, des 4 villes que vous avez citées, et on s'aperçoit qu'il y a une proportion d'à peu près un tiers de nos abonnés qui lisent les informations concernant les autres villes, pas leur ville d'implantation. Hein. Les deux tiers se contentent de lire l'actualité, les enquêtes exclusives qu'on leur propose sur leur ville, mais à peu près un tiers lit sur les autres villes. Et ça nous semble important parce qu'à terme, ce qu'on veut faire, ce qu'on essaye de faire ardemment depuis 5 ans, c'est de constituer un réseau de sites d'information locale.
Oui.
Et on espère jouer sur l'effet synergie et l'effet complémentaire. Si vous voulez, à terme, on voudrait devenir, si on y arrive, et c'est très dur, le numéro 1 de l'investigation locale. Hein, on va fixer un horizon, parce qu'on est persuadé que ça manque cruellement dans le paysage médiatique français.
Alors, j'ai cité vos confrères du DOC qui ont jeté l'éponge après une période de Covid extrêmement difficile à vivre, humainement et économiquement, parce qu'il y a des enjeux humains très forts quand on fait de l'investigation au niveau local. On va en reparler. Mais évidemment, vous parlez aussi de bassins d'abonnement qui sont très limités. Donc forcément, c'est des croissances qui se font au compte-gouttes, abonné par abonné.
Oui, notre constat, c'est que ça fonctionne essentiellement par bouche à oreille.
Ouais.
C'est-à-dire, nous, notre réalité, c'est une croissance régulière, mais lente, et beaucoup trop lente par rapport à nos moyens. Donc, chaque ville représente un petit marché. C'est difficile de le monétiser, c'est difficile de le rentabiliser, c'est difficile d'avoir suffisamment de lecteurs. Mais je pense que vos auditeurs vont être étonnés, parce qu'il suffit de 2000 abonnés par ville, par métropole, pour équilibrer nos comptes.
Ouais.
Et on n'y est pas.
Oui. Ouais. Alors on va peut-être d'abord parler de vos enquêtes et ensuite de combien ça coûte de faire de l'enquête. Parce que l'enquête, ça coûte en réalité, beaucoup plus que de couvrir...
C'est simple, une enquête, en moyenne, c'est 15 abonnés. Il faut 15 abonnés pour rentabiliser une enquête. Donc ce qu'on veut faire passer comme message, c'est que la bonne information, le bon journalisme a un coût. Nous, on fait c'est un sacerdoce, on fait des sacrifices énormes, on est payé à peine au-dessus du SMIC et on est fiers de le faire. On le fait parce qu'on y croit, qu'on veut défendre le journalisme, parce que si les journalistes ne défendent pas le journalisme, personne ne le fera à leur place. Mais il faut bien que le public se rende compte que derrière une investigation, il y a des efforts, de la sueur,
du temps,
et ça, c'est forcément un peu d'argent. Sinon, on n'aura qu'un bloubi-boulga d'informations, d'ailleurs
copier-coller.
Copier-coller, énormément de copier-coller sur Internet, et le public aura raison de se cabrer contre la presse, mais s'il ne réagit pas en sponsorisant en quelque sorte des journalistes qui veulent faire leur job du mieux possible en région, eh ben on va pas pouvoir continuer comme ça très longtemps.
Alors on repart à Lille, vous avez enquêté sur les frais du président de la métropole lilloise, il a très mal réagi.
J'ai une réaction de colère d'un papa qui a été outré que sa fille soit appelée. J'ai une réaction peut-être subite, peut-être forte, peut-être dans un moment de pression, parce qu'à chaque fois ça tombe le jour d'un conseil de communauté. J'ai peut-être été violent, je m'en excuse auprès de votre profession, mais certainement pas auprès d'eux qui ont été jusqu'à appeler ma fille, me harceler et faire une chasse à l'homme.
Jacques Transeau.
Alors, on ne l'a pas harcelé, on a appelé un numéro de téléphone qu'on avait récupéré sur une facture de vêtements, notamment de chaussettes, de chemises, de pantalons, qu'il avait reçu à son domicile et qui était payé par la collectivité. Point barre. On a appelé ce 06 et j'ai eu la surprise de tomber sur sa fille. Quand j'ai appris que c'était sa fille, je me suis excusé, je lui ai demandé de passer le message à son père et j'attends toujours son appel.
Et votre enquête, donc, met au jour une utilisation de frais professionnels à des fins personnelles, avec des voyages, des hôtels, des spas, des restaurants. Je vous laisse lire l'enquête si elle vous intéresse, si vous êtes lillois ou si vous êtes d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que la justice s'en est emparée, Jacques Transeau.
Oui, alors l'affaire est ancienne, elle remonte à plus de 3 ans. Donc on ne va pas focaliser sur Damien Castelin, parce qu'il y a eu beaucoup d'affaires. Ce que ça révèle, c'est l'impunité dans laquelle se trouvent certains élus locaux. Ne serait-ce que parce qu'ils ne sont jamais contrôlés, ils ne sont jamais surveillés. C'est très difficile pour les élus d'opposition. Et la presse ne fait pas, à mon avis, autant le job qu'il faudrait faire. Voilà, c'est notre conviction. Il y a de très bons journalistes dans la presse quotidienne régionale, ils sont au four et au moulin, et donc il manque d'investigation. Monsieur Castelin, il faudrait le réinterroger aujourd'hui, parce que le problème, c'est que la justice, effectivement, est passée. Non seulement il a remboursé les frais, donc il a pris les devants pour espérer, en espérant que la justice soit plus clémente, ce ne sera pas le cas. Deuxièmement, il a dû rembourser, ou il va devoir rembourser ses frais d'avocat, parce qu'il s'était fait payer ses frais de défense par la collectivité, alors que ça n'a rien à voir avec l'exercice de sa fonction. Et troisièmement, il va passer au tribunal correctionnel, a priori, c'est prévu pour le début de l'année prochaine.
Et nous partons maintenant à Nantes, un sujet de France 3, pays de la Loire. Valdemar Quitta, vous allez entendre une description de ce personnage, puis vous allez nous expliquer, Jacques Transeau.
2007, Valdemar Quitta s'offre le FC Nantes.
Je ne vais pas perdre, c'est vrai, je ne peux que gagner.
Il vient de vendre Cornéal, laboratoire spécialisé dans l'esthétique et le Botox, 130 millions d'euros. À l'époque, Valdemar Quitta vient de devenir officiellement résident en Belgique, dans cette petite maison située à Bruxelles, ce qui lui permet d'échapper à l'impôt sur les plus-values. C'est à Bruxelles aussi que Valdemar Quitta domicilie la société qui gère le FC Nantes, une simple boîte aux lettres située derrière la benne sur cette photo.
Jacques Transeau, vous allez nous raconter un peu plus spécifiquement cette enquête. Vous allez nous raconter comment on mesure l'impact d'une enquête. Mais d'abord, une question sur l'effet de reprise, comme on dit dans notre jargon. Oui. C'est-à-dire que là, on a trouvé 2 archives qui sont des archives France 3. On a aussi trouvé pas mal d'archives France Bleu, notre réseau régional à nous, Radio France, en région. Donc, en réalité, une enquête qui touche à son but, c'est aussi une enquête qui est reprise par les autres médias.
Un effet boule de neige
médiatique.
Mais posez-vous la question, quelle est la valeur économique d'un scoop? Un scoop, c'est ce qu'on produit de meilleur. Ça nécessite beaucoup de moyens. Regardez là, dans le cas de Valdemar Quitta, donc le patron du FC Nantes, notre journaliste est allé à Bruxelles. Il est allé faire des vérifications dans différents pays. Il a passé beaucoup de temps. Je voulais dire, je perds un petit peu le fil, mais
c'est repris
la
par
valeur
les autres,
économique voilà. D'un scoop, il est repris immédiatement. Plus le scoop est fort, plus il est repris. C'est comme si vous rentrez dans un magasin, vous piquez un sac à main et quelque part vous dites, ah mais c'est un sac à main LVMH, donc il n'y a pas de problème. Un scoop, c'est comme si vous repreniez le scoop de Mediacité, vous le citez, et les gens se contentent essentiellement de la reprise. Ils n'ont pas forcément conscience de la source. Et nous, c'est notre nectar, c'est notre trésor, le scoop. Donc on en sort beaucoup, je vous garantis qu'on en sort beaucoup.
Oui.
Certains, pas mal, sont repris, mais en termes économiques, beaucoup de gens se contentent de la reprise. S'ils n'ont pas conscience que derrière, il y a des journalistes de terrain qui travaillent sur des sujets différents des sujets mainstream, des sujets des grands médias, on va pas pouvoir continuer comme ça. Il faut vraiment que les gens aient conscience de la traçabilité de l'information, d'où elle vient, qui l'a sortie, dans quelles conditions. Pourquoi ? Et nous, on dit, mais là, on a un réseau de journalistes, on a plus de 100 pigistes qui sont présents sur le terrain.
Alors parlons-en de ces pigistes, parce que ça pose tout un tas de questions vraiment importantes et intéressantes aussi sur la question de la précarité des journalistes. Quand on enquête au niveau local, peut-être un peu plus qu'au niveau national ou au niveau international, on prend beaucoup de risques. On prend des risques humains, on prend des risques professionnels. On se grille avec beaucoup de gens. Il y a une omerta qui est parfois facile à comprendre au niveau local. C'est pas facile. Facile de bousculer les bien habitudes sûr, et de délier
sûr,
les langues.
Bien sûr, l'investigation locale, je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur. Pourquoi ? Parce que quand vous pointez un dysfonctionnement de quelqu'un que vous pouvez côtoyer au marché le dimanche matin, ou dont les enfants sont scolarisés dans la même école que vous, c'est très difficile à vivre.
Très difficile.
Hein. En plus, vous n'avez pas énormément de sources. Hein. Si vous êtes bloqué à la mairie...
Et
si
pour les sources aussi, c'est difficile.
Et pour les sources, c'est très difficile, parce qu'il y a une sorte de coût psychologique. L'idée, c'est, est-ce que je dis ce que je crois devoir dire, ma conscience doit dire qu'il y a un dysfonctionnement, ou est-ce que je me tais pour éviter les représailles, dans la mesure où je risque d'être connu, et comme j'évolue dans un petit milieu, dans un petit réseau, celui qui tient la ville, c'est très difficile, ce coût psychologique.
Oui, exactement. Donc évidemment, vous employez des pigistes, mais les pigistes qui travaillent pour vous prennent le risque de se griller professionnellement ensuite et de ne plus avoir accès aussi à tout un tas de sources au niveau régional.
Tout à fait.
Donc de plus pouvoir travailler.
Tout à fait, tout à fait. Déjà, dans l'absolu, il y a beaucoup de pigistes qui quittent le métier. Ça, c'est un drame, hein, parce qu'on commence à avoir du mal à avoir des bons pigistes en région, parce qu'ils ne vivent plus assez du journalisme. Mmh. Et ça a été prouvé par une enquête toute récente de Jean-Marie Charron.
Absolument. Hein,
donc il y a énormément de gens qui quittent la profession parce qu'ils vivent avec moins que le SMIC.
Charron, qui est sociologue spécialiste des médias et qui a montré que les jeunes journalistes tiennent 5, 10, 15 ans maximum dans le métier et ensuite ils renoncent.
Voilà. Donc tout l'intérêt de Médiacité, c'est que quand on a des journalistes qui nous connaissent bien, avec qui on travaille bien, ils peuvent nous filer une info sans la traiter eux-mêmes, au cas où il y aurait un conflit d'intérêts ou au cas où ils seraient trop proches de leur source. Et nous, on le traite, c'est comme une chaîne de solidarité, et le réseau Médiacité le permet.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'impact d'une enquête, Jacques Transeau ? Parce que vous donnez aussi des outils à vos lecteurs et à vos abonnés pour vous évaluer, en quelque sorte.
Oui, alors l'impact le plus facile à mesurer, c'est quand il y a un déclenchement d'enquête judiciaire. Hein. Mais après, l'impact est difficile à évaluer parce qu'on ne sait pas quel est l'impact d'un papier. Je dis toujours qu'un papier peut changer une vie. Il y a un portrait de quelqu'un et vous avez envie de le découvrir, de le rencontrer. Vous prenez contact avec lui après avoir découvert son existence dans un article de presse. Ça peut changer votre vie, ça peut vous faire vous engager dans une association. L'impact, il est énorme. En fait, moi j'ai dit souvent, un article c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on offre à nos lecteurs parce qu'on lui permet de découvrir autre chose. Mmh. Autre chose, d'ouvrir un peu les œillères et d'éviter de se fermer sur des querelles et des polémiques qui n'en valent pas la peine. Nous on est journalistes de terrain. On parle de leur ville, on veut les rendre plus intelligents sur leur ville.
Quelles querelles et quelles polémiques qui n'en valent pas la peine et qui ont envahi les médias H24 depuis des mois. Alors là, vraiment, je me demande, Jacques Transeau.
Les gens, vous savez, j'entends de plus en plus de gens qui disent « Mais moi, j'arrête, je coupe la radio, j'éteins la télévision, je fais une diète informationnelle. » Et donc, moi, je leur dis « Ok, je comprends, mais lisez la différence. Lisez la presse indépendante. » Récemment, il y a eu un appel de 86 médias indépendants. Non, ça a été porté par le Fonds pour la presse libre, qui est un fonds qui vise à aider la presse indépendante. Ouvrez les fenêtres, lisez autre chose, informez-vous, ayez une hygiène informationnelle. C'est fondamental. Et donc, lisez Médiacité, soutenez Médiacité, parce qu'on propose de l'information différente, exclusive, qui concerne votre quotidien et votre ville.
Quels enseignements vous avez tirés des élections régionales ? Après justement beaucoup de bruit sur la percée de l'extrême droite, finalement qui ne reflète pas la vie des gens en région, leurs choix, leurs engagements, leur idéologie.
Le principal résultat, c'est l'abstention. Et l'abstention, au-delà du chiffre, c'est le désengagement civique. Et ça, c'est une plaie pour la démocratie. Mmh. Et nous, on essaye d'aller à contre-courant de ça, puisque notre enjeu, comme journaliste, c'est de réintéresser le lecteur à sa ville, la cité, à la ville, sa cité. C'est pour ça qu'on s'appelle Médiacité. Mmh. Donc on est à rebours total de cette éviction, de ce dégoût, de cette incompréhension, de cette lassitude démocratique, de cette fatigue démocratique.
Merci beaucoup Jacques Transeau. Vos convictions nous font du bien ce matin. Médiacité, 60 euros par an, on peut même déduire le...
Et on est en grande campagne d'abonnement de survie, voilà. Hein, puisque si on n'atteint pas les 2000 abonnés avant la fin de l'année, ça va être très très dur pour nous.
Voilà, sinon bah, vous vous abonnez à Splat, Vous vous abonnez à Mars Actu, vous vous abonnez.
Soyez curieux, soyez curieux. Lisez différent.
Merci Jacques Transeau d'être venu ce matin sur France Inter.